Maurice Maeterlinck, Le temple enseveli, l'évolution du mystère. 1. Il est fort raisonnable de croire, et beaucoup d'intelligence un peu lasse des incertitudes naturelles de la science croit, faute de mieux, que l'intérêt principal de notre vie, que tout ce qui est vraiment élevé et digne d'attention dans notre destinée se trouve presque uniquement dans le mystère qui nous entoure, et de préférence dans ces deux mystères plus redoutables et plus sonores que les autres. La mort et la fatalité. Je crois aussi, mais d'une façon un peu différente, que l'étude du mystère sous toutes ses formes est la plus noble à laquelle puisse se livrer notre esprit. Et c'est d'ailleurs l'étude et le souci de tous les hommes qui, dans la science, l'art, la littérature et la philosophie, s'élèvent au-dessus de l'observation et de la reproduction des petits faits, des petites réalités ou des petites vérités acquises. Ils y excellent plus ou moins. Ils vont plus ou moins loin, plus ou moins haut dans ce qu'ils savent, à proportion du respect qu'ils ont pour ce qu'ils ignorent, à proportion de l'ampleur que leur imagination ou leur intelligence s'est donnée à l'ensemble des forces qu'on ne peut pas connaître. C'est la conscience de l'inconnu dans lequel nous vivons qui confère à notre vie une signification qu'elle n'aurait point si nous nous renfermions dans ce que nous savons, ou si nous croyions trop facilement que ce que nous savons est de beaucoup plus important que ce que nous ignorons encore. 2. Il faut se faire une conception générale de ce monde. Toute notre vie morale, toute notre vie humaine s'appuie sur cette conception. Mais une conception générale de ce monde qu'est-elle, pour la plus grande part, si on l'examine de près, qu'une conception générale de l'inconnu. Il n'est pas permis, quand il s'agit d'une idée aussi grave et dont les conséquences sont aussi sérieuses, de prendre celle qui nous plaît le mieux, qui nous semble la plus imposante ou la plus belle. Nous sommes tenus de choisir celle qui nous paraît la plus vraie, ou plutôt la seule vraie, car je ne crois pas que l'homme puisse sincèrement hésiter entre deux vérités apparentes ou réelles. Il s'en trouve toujours une qui, à un moment donné, lui semble plus vraie que l'autre. Son devoir, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il pense, dans son art, dans sa science, dans sa vie intellectuelle ou sentimentale, est de se tenir à celle-là. Peut-être lui sera-t-il impossible de la définir. Peut-être ne lui apportera-t-elle aucune certitude satisfaisante. Peut-être ne sera-t-elle au fond qu'une impression plus profonde, plus sincère que les autres. N'importe. Il n'est pas besoin, pour que nous chérissions une vérité, qu'elle soit irrécusable ou inattaquable. C'est déjà beaucoup qu'elle nous ait fait voir que les idées que nous aimions avant elle n'étaient point d'accord avec l'expérience loyale de la vie. Cela suffit pour que nous nous y attachions de toute notre reconnaissance jusqu'à ce qu'elle subisse le sort qu'elle fit subir à l'idée primitive. Le grand mal, celui qui détruit notre vie morale et menace l'intégrité de notre esprit et de notre caractère, n'est point de se tromper ou d'aimer une vérité incertaine, mais de rester fidèle à ce qu'on ne croit plus entièrement. Le plus bel emploi de notre vie, a-t-on dit, c'est d'accroître la conformité de notre intelligence à la réalité. 3. S'il n'était question que de se faire de l'inconnu l'image la plus grandiose, la plus tragique, la plus imposante, la plus écrasante, nous aurions tort de nous restreindre. Il est certain qu'à bien des points de vue, L'attitude la plus belle et la plus religieuse en face du mystère, c'est le silence ou la prière, l'acceptation et la crainte. Au premier abord, l'abandon total, l'effroi grave mais contenu devant une force immense, irrésistible, inconnaissable mais attentive, humainement surhumaine, souverainement intelligente et peut-être paternelle, semble plus digne, plus sacré qu'une interrogation patiente, minutieuse et tranquille. Mais sommes-nous encore en état? Avons-nous encore le droit de choisir? Il ne s'agit plus de la beauté ou de la grandeur de l'attitude. En face du mystère, comme en face de toute chose, et bien plus qu'en face de toute autre chose, il y va non pas de beauté ou de grandeur, mais de vérité et de sincérité. Notre devoir n'est plus de chercher à conformer les faits à nos préférences instinctives, à notre idéal, mais de nourrir des aspirations assez vastes, assez désintéressées, pour qu'elles soient toujours prêtes à s'harmoniser avec tous les faits incontestables. Ce qu'il y avait de beau dans l'agenouillement ou la prosternation, c'est le passé qu'il y avait mis, ou plutôt ce qui était une vérité dans le passé. Pour nous, peut-être n'avons-nous pas une autre certitude, mais nous ne sommes plus pénétrés de la même vérité. Si nous ne connaissons pas l'inconnu, si nous ignorons ce qu'il est, du moins savons-nous en partie ce qu'il n'est pas. Et si nous reprenions l'attitude de nos pères, nous reprendrions cette attitude devant ce que nous savons qu'il n'est pas. Car s'il n'est pas absolument établi que l'inconnu ne soit ni attentif, ni personnel, ni souverainement intelligent et juste, s'il n'est pas absolument prouvé qu'il n'est ni la forme, ni les intentions, ni les passions, ni les vices, ni les vertus de l'homme, il est incomparablement plus probable qu'il ignore tout ce qui nous paraît capital dans notre existence. Il est incomparablement plus probable qu'il a peut-être réservé à l'espèce, dans son plan démesuré et éternel, une petite place éphémère, mais que l'action de l'individu le plus puissant, le meilleur ou le pire, n'y a pas plus d'importance que n'en eurent dans l'histoire des continents et des mers, les mouvements à peine perceptibles de l'obscure cellule géologique. S'il n'est pas irréfutablement démontré que l'infini et l'invisible ne soient pas aux aguets autour de nous, pesant notre bonheur ou notre malheur, selon les intentions bonnes ou mauvaises de nos actes, guidant pas à pas nos destins et organisant avec l'aide de forces innombrables les péripéties de notre naissance, de notre avenir, de notre mort et de notre vie d'outre-tombe, d'après des lois incompréhensibles mais inéluctables, il est incomparablement plus probable que l'invisible et l'infini interviennent à chaque instant dans notre vie, mais à titre d'éléments indifférents, énormes et aveugles, qui passent sur nous et en nous, nous pénètrent, nous façonnent et nous animent, sans se douter de notre existence, comme le font l'eau, l'air, le feu et la lumière. Or, toute notre vie consciente, toute cette vie qui forme notre seule certitude et notre seul point fixe dans le temps et l'espace, repose en somme sur d'incomparables probabilités du même ordre, et il est rare qu'elles soient aussi incomparables que celles-ci. 4. Il ne faudrait jamais avoir regret à ces heures où une croyance grandiose nous abandonne. Une foi qui s'éteint, un ressort qui se brise, une idée dominante qui ne nous domine plus parce que nous croyons la dominer à notre tour, cela prouve que nous vivons, que nous marchons, que nous usons beaucoup de choses parce que nous ne demeurons pas immobiles. Rien ne devrait nous être plus doux que la vue d'une pensée qui nous a longtemps soutenus et qui ne peut plus se soutenir elle-même. Et si nous n'avons rien à mettre à la place du ressort brisé, ne nous tourmentons point. Mieux vaut que la place reste vide que d'y laisser un ressort qui se rouille ou d'y introduire une vérité nouvelle à laquelle nous ne croyons qu'à demi. D'ailleurs, la place n'est vide qu'en apparence, et, à défaut d'une vérité déterminée, il y reste, tout au fond, une vérité sans nom qui attend et qui appelle. Et s'il arrive que cette vérité attende et appelle trop longtemps dans le vide, que rien ne se forme qui vienne remplacer le ressort enlevé, vous verrez que dans la vie morale, comme dans la vie physique, le besoin créera l'organe, et que la vérité négative finira par trouver en elle la force nécessaire pour remettre en mouvement les rouages reposés. Et nous constatons souvent que les vies qui n'ont plus qu'une force de ce genre ne sont pas les moins puissantes, les moins utiles. Au reste, alors même que la croyance s'en irait tout entière, elle n'emporterait rien de ce que nous lui avons donné, et pas un des efforts sincères et désintéressés que nous avons faits pour l'étendre et l'embellir n'est perdu. Chacune des pensées que nous y avons ajoutées, chacun des bons sacrifices que nous avons eu le courage de réaliser en son nom, laisse une empreinte dans notre être moral. Le corps disparaît, mais le palais qu'il a bâti reste intact et l'espace qu'il a conquis ne se referme pas. Or, préparer des demeures pour les vérités qui viendront, maintenir en bon état les forces qui devront les servir, faire en soi de l'espace, c'est un travail qui n'est pas stérile et une œuvre à laquelle il ne faut jamais renoncer. 5. Je pensais à ces choses, ayant été forcée l'autre jour de jeter un coup d'œil sur divers petits drames que j'ai faits et où l'on voit les inquiétudes, d'ailleurs excusables, mais qui ne sont plus suffisamment inévitables pour qu'on ait le droit de s'y complaire, d'un esprit qui se laisse aller au mystère. Le ressort de ces petits drames, c'était l'effroi de l'inconnu qui nous entoure. On y avait foi, ou plutôt je ne sais quel obscur sentiment poétique avait foi, car dans les poètes les plus sincères, il faut souvent séparer quelque peu le sentiment instinctif de leur art des pensées de leur vie réelle. On y avait foi à des puissances énormes, invisibles et fatales, dont nul ne devinait les intentions, mais que l'âme du drame supposait malveillante, attentive à toutes nos actions, ennemie du sourire, de la vie, de la paix, de l'amour. Peut-être était-elle juste, au fond, mais seulement dans la colère, et elles exerçaient la justice d'une manière si souterraine et si tortueuse, si lente et si lointaine, que leur châtiment, car elle ne récompensait jamais, prenait l'apparence d'actes arbitraires et inexplicables du destin. En un mot, c'était un peu l'idée du Dieu des chrétiens mêlée à celle de la fatalité antique, refoulée dans la nuit impénétrable de la nature, et de là, se plaisant à guetter, à déjouer, à déconcerter, à assombrir les projets et le bonheur des hommes. 6. Cet inconnu prenait le plus souvent la forme de la mort. La présence infinie, ténébreuse, sournoisement active de la mort, remplissait tous les interstices du poème. Au problème de l'existence, il n'était répondu que par l'énigme de son anéantissement. D'ailleurs, c'était une mort indifférente et inexorable, aveugle, tâtonnant au hasard, emportant de préférence les plus jeunes et les moins malheureux, simplement parce qu'il se tenait moins immobile que les autres et que tout mouvement trop brusque dans la nuit attirait son attention. Il n'y avait autour d'elle que de petits êtres fragiles, grelottants, élémentaires, qui s'agitaient et pleuraient un moment au bord d'un gouffre. Et les paroles prononcées, les larmes répandues, ne prenaient d'importance que de ce qu'elles tombaient toutes dans ce gouffre, et qu'il arrivait, parfois, que l'une d'elles y retentissait d'une certaine façon, qui permettait de croire que l'abîme était vaste, parce que le bruit qu'on y faisait était confus et sourd. 7. Il n'est pas déraisonnable, mais il n'est pas salutaire, d'envisager de cette façon la vie. Et je n'en aurais pas parlé si l'on ne voyait pas, dès qu'arrive la moindre infortune, que cette conception ou une conception de ce genre est au fond celle de la plupart des hommes, de ceux-là même qui semblent le plus rassurés et le plus réfléchis. Évidemment, par un certain côté, malgré tout ce que nous apprendrons, malgré toutes les conquêtes que nous ferons et toutes les certitudes que nous acquérerons peut-être, nous serons toujours de petits êtres chétifs et inutiles, voués à la mort et livrés aux caprices des forces négligentes et démesurées qui nous enveloppent. Nous paraissons un moment dans l'espace sans bornes, et n'avons d'autre mission appréciable que la propagation d'une espèce qui, elle-même, n'a aucune mission certaine dans l'organisme d'un univers dont l'étendue et la durée échappent à l'imagination la plus puissante et la plus téméraire. C'est là une vérité, une de ces vérités profondes mais inactives, que le poète peut saluer en passant, mais près desquels l'homme aux mille devoirs qui vit dans le poète ne doit pas s'arrêter trop longtemps. Il y a ainsi une foule de vérités grandes et vénérables dans le domaine desquelles il n'est pas bon de s'endormir. Les vérités sont si nombreuses autour de nous que l'on peut dire que la plupart des hommes, et les plus méchants même, ont pour conseil et pour guide une grave et respectable vérité. Oui, c'est une vérité, et si l'on veut, c'est la plus vaste et la plus certaine des vérités, que notre vie n'est rien, que l'effort que nous faisons est dérisoire, que notre existence, que l'existence de notre planète n'est qu'un accident misérable dans l'histoire des mondes. Mais c'est une vérité aussi que notre vie et que notre planète sont pour nous les phénomènes les plus importants, et même les seuls importants dans l'histoire des mondes. Laquelle est la plus vraie? La première détruit-elle nécessairement la seconde? Et sans la seconde, aurions-nous la force de formuler la première? L'une s'adresse à notre imagination et peut nous faire du bien dans son domaine. Mais l'autre intéresse directement notre vie réelle. Il convient que chacune ait sa part. L'essentiel n'est pas de s'attacher à la vérité, qui est peut-être la plus vraie au point de vue universel, mais à celle qui est certainement la plus vraie au point de vue humain. Nous ignorons le but de l'univers, et si les destinées de notre espèce lui importent ou non. Par conséquent, l'inutilité probable de notre vie ou de notre espèce est une vérité qui ne nous regarde qu'indirectement et qui reste pour nous en suspens. Au lieu que l'autre vérité, celle qui nous donne conscience de l'importance de notre vie, est sans doute plus étroite, mais nous touche actuellement immédiatement et incontestablement. Nous aurions tort de la sacrifier ou de la subordonner à une vérité étrangère. Certes, il nous est permis de ne pas perdre de vue la première. Elle soutiendra et éclairera la seconde. Nous apprendra à ne pas être son esclave, vaniteux et borné, et à tirer profit de tout ce qu'elle n'embrasse point. Mais si elle nous décourage et nous paralyse, c'est que nous ne nous rendons pas suffisamment compte de la place immense, mais très précaire, qu'elle occupe dans la région des vérités importantes, car elle dépend d'un grand nombre de problèmes qui ne sont pas encore résolus, tandis que les problèmes dont dépend la seconde sont résolus à chaque instant par la vie même. C'est aussi qu'elle est encore dans la période fébrile et dangereuse par laquelle passent toutes les vérités qui pénètrent en notre intelligence. Je veux dire la période de jalousie et d'intransigeance qui fait qu'elles ne peuvent rien supporter autour d'elles. Il faut attendre alors que la fièvre s'apaise, et si la demeure que nous leur avons préparée dans notre esprit est réellement saine et vaste, le moment ne tardera pas à venir où les vérités les plus contradictoires ne verront plus autre chose que le lien mystérieux qui les unit et s'accorderont en silence pour mettre au premier rang, aider et soutenir celle d'entre elles qui a continué tranquillement sa besogne pendant que les autres s'effaraient, celle qui peut faire le plus de bien et qui apporte le plus d'espoir. 8. À l'heure présente, rien n'est plus singulier que le désarroi qui trouble nos instincts et nos sentiments, et parfois même nos idées, à moins d'excepter nos moments les plus lucides et les plus réfléchis, dès qu'il s'agit de l'intervention de l'inconnu ou du mystère dans les événements réellement graves de notre vie. On y trouve dans ce désarroi des sentiments qui ne répondent plus à aucune idée vivante, précise et acceptée. Par exemple, ceux qui ont rapport à l'existence d'un Dieu bien déterminé, plus ou moins anthropomorphe, attentif, personnel et providentiel. On y trouve des sentiments qui sont encore à demi des idées. Par exemple, ceux qui ont rapport à la fatalité, au destin, à la justice des choses. On y trouve aussi des idées qui sont en voie de devenir des sentiments, par exemple celles qui ont rapport au génie de l'espèce, aux lois de l'évolution et de la sélection, à la volonté de la race, etc. On y trouve enfin des idées qui sont purement des idées et trop incertaines, trop éparses, pour qu'on puisse prévoir le moment où elles se transformeront en sentiments et où elles auront, par conséquent, une influence sérieuse sur notre manière d'agir, d'accepter la vie et d'être heureux ou malheureux. 9. On ne se rend pas compte de ce désarroi dans la vie parce que d'ordinaire, elle ne s'exprime pas, ne prend pas la peine de préciser à l'aide d'une formule ou d'une image la conscience de ce qu'elle éprouve. Mais il est très visible, chez tous ceux qui assument la mission de représenter la vie réelle, de l'expliquer, de l'interpréter et de mettre en lumière les causes secrètes des bonnes ou des mauvaises destinées. Je veux dire chez les poètes. Et surtout, les poètes qui s'occupent le plus directement de la vie extérieure et active, les poètes dramatiques. Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse de romans, de tragédies, de drames proprement dits, ou d'études historiques, car je prends les mots poètes et poètes dramatiques dans le sens le plus large. Il faut l'avouer, c'est une grande force pour le poète ou pour l'interprète de la vie, surtout pour le poète dramatique, qu'une idée dominante et pour ainsi dire exclusive, et cette force est d'autant plus inépuisable, tient dans le poème une place d'autant plus considérable que l'idée dominante est plus mystérieuse, qu'il est plus difficile de la contrôler ou de la définir. Cela d'ailleurs est très légitime tant que le poète n'a pas le moindre doute sur la valeur de son idée dominante. Et de très bons poètes ne se sont jamais interrogés sur ce point, n'ont pas douté, n'ont pas hésité. Voyez, par exemple, la place énorme qu'occupe l'idée du devoir héroïque dans les tragédies de Corneille, la foi absolue dans les drames de Calderon, la tyrannie du destin dans les poèmes de Sophocle. 10. L'idée du devoir héroïque est plus humaine et moins mystérieuse que les deux autres, et bien qu'elle soit beaucoup moins féconde qu'elle n'était au temps de Corneille, car il est aujourd'hui fort peu de devoirs héroïques qu'il ne soit raisonnable et même héroïque de remettre en question, et il devient de plus en plus difficile d'en trouver un qui s'affirme réellement impératif, on peut encore, dans certaines circonstances imaginables, y avoir recours. Mais quel poète moderne trouvera dans une foi qui, chez les plus croyants, n'est plus qu'un souvenir vacillant, la puissance et l'inspiration qui trouvait Calderon pour faire du Dieu des chrétiens l'acteur auguste et invisible mais partout présent et partout souverain de ses drames. Et la tyrannie du destin, de la force inflexible qui pousse tel homme, telle famille, par tel chemin vers tel malheur, vers telle mort, qui de nous peut raisonnablement l'accepter dans une vie que nous voyons soumise, il est vrai, à bien des forces inconnues, mais dont les plus sages parviennent à éviter, dans une certaine mesure, les chocs les plus malfaisants et qui semblent en tout cas aveugles, indifférentes, inconscientes. Nous est-il encore permis de supposer qu'il existe dans l'univers une puissance assez misérable, assez oisive pour s'occuper uniquement à chagriner, à étonner les projets et les entreprises de l'homme? On a également usé d'une troisième force, mystérieuse et souveraine, qui est la justice immanente. Mais il faut remarquer que ce postulat de la justice immanente proprement dite, on n'a jamais osé s'en servir que dans les pires œuvres, dénuées de tout souci de vraisemblance et de réalité. Affirmer que le mal est nécessairement et visiblement puni, que le bien est nécessairement et visiblement récompensé dans cette vie, cela est trop manifestement contredit par l'expérience quotidienne la plus élémentaire pour qu'un poète véritable ait jamais pu trouver dans ce rêve arbitraire et inconsistant le point d'appui qu'il fallait à son travail. D'autre part, si on remet à une vie ultérieure le soin des récompenses et des châtiments, on rentre par un sentier détourné dans le domaine de la justice divine. Si, enfin, la justice immanente n'est pas invariable, permanente, inévitable, infaillible, ce n'est plus qu'un caprice bienveillant et extraordinaire du destin. Et dès lors, ce n'est pas la justice, ce n'est plus même le destin, ce n'est plus qu'un hasard, c'est-à-dire presque rien. Il y a, il est vrai, une justice immanente très réelle. Celle qui fait que l'homme vicieux, cruel, malveillant, injuste, déloyal est moralement moins heureux que l'homme bon, juste, dévoué, aimant, bienveillant, innocent, pacifique. Celle qui fait, comme on l'a dit, que le mal gravite vers la douleur avec la même certitude que la terre vers le soleil. Mais il s'agit alors d'une justice intérieure, très humaine, très naturelle, très explicable. Et si nous en étudions les causes et les effets, nous arrivons nécessairement au drame psychologique qui se déroule sur une scène où l'on n'a plus l'arrière-plan profond et défendu par le mystère qui donnait aux événements du drame de l'histoire une perspective grandiose et sacrée. Mais la question est de savoir s'il est légitime de créer cet arrière-plan en ayant recours à une conception de l'inconnu très différente de celle qui domine réellement notre vie. 11. Puisque nous parlons d'idées dominantes et de mystères, arrêtons-nous surtout aux diverses formes qu'a prises et que prend tous les jours l'idée de la fatalité. Car aujourd'hui encore, c'est la fatalité qui est l'explication suprême de ce qu'on ne peut expliquer. Et c'est encore à elle que les interprètes de la vie ne cessent de penser. Ils se sont efforcés de la transfigurer et de la rajeunir. Ils ont essayé d'introduire dans leurs œuvres, par 100 canaux nouveaux et compliqués, les eaux glacées du grand fleuve désolé, dont les demeures des hommes se sont peu à peu écartées. Il en est bien peu parmi ceux qui ont su nous faire partager l'illusion qu'il donnait à la vie un sens définitif et grave, qui n'aient reconnu d'instinct l'importance souveraine que confère aux actions des hommes la puissance irresponsable du destin, toujours auguste et toujours excusable. Il semble que la fatalité soit la force tragique par excellence, et dès qu'elle pénètre dans une œuvre, elle y fait les trois quarts de la besogne. On peut affirmer que le poète qui trouverait aujourd'hui dans les sciences matérielles, dans l'inconnu qui nous environne, ou dans notre propre cœur, l'équivalent de la fatalité antique, c'est-à-dire une force de prédestination aussi irrésistible, aussi universellement admise, écrirait à coup sûr un chef-d'œuvre. Il est vrai qu'il aurait probablement trouvé en même temps le mot de la grande énigme qui nous dévore, et que par conséquent, cette supposition ne se réalisera pas de sitôt. 12. Voilà donc la source où les poètes vont puiser l'eau lustrale qui doit purifier les plus cruelles tragédies. Il y a dans l'homme un instinct qui adore la fatalité, et tout ce qui est fatal lui semble solennel, indiscutable et beau. Il voudrait être libre, mais il est plus satisfaisant de pouvoir se dire, dans certaines circonstances, qu'on ne l'est pas. Une divinité malveillante et inébranlable est souvent moins inacceptable qu'une divinité qui exige un effort pour écarter le mal. On aime, malgré tout, à dépendre d'une puissance qu'on ne peut pas fléchir, et ce qui perd la vanité de notre esprit, une sorte de vanité sentimentale le regagne, en se représentant cette vaste puissance, attentive à nos desseins et donnant à nos actes les plus compréhensibles une signification auguste et éternelle. Enfin, la fatalité explique, excuse tout, en éloignant à une distance suffisante dans l'invisible ou l'inintelligible ce qu'il serait pénible d'expliquer et plus difficile encore d'excuser. 13. On a donc cherché à utiliser les débris de la statue de la déesse terrible qui dominait les tragédies d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, et plus d'un poète a trouvé dans ses membres épars le marbre qu'il fallait pour façonner une déesse nouvelle, plus humaine, moins absolue et moins inconcevable. On en a tiré, par exemple, la fatalité des passions. Mais pour qu'une passion soit réellement fatale dans une âme consciente, et pour que le mystère reparaisse, qui excuse l'horreur en l'agrandissant et en l'élevant au-dessus de la volonté humaine, il faut l'intervention d'un Dieu ou de toute autre force infinie et irrésistible. Ainsi, Wagner a eu recours au philtre dans Tristan et Iseut, Shakespeare aux sorcières dans Macbeth, Racine à l'oracle de Calchas dans Iphigénie et dans Phèdre à la haine spéciale de Vénus. Nous nous retrouvons, après un circuit, au cœur même de la nécessité d'autrefois. Ce circuit est plus ou moins admissible dans un drame archaïque ou légendaire, où toute fantaisie poétique est permise. Mais dans un drame qui voudrait serrer de plus près la vérité actuelle, il faudrait trouver une autre intervention qui nous parut réellement irrésistible pour revêtir les crimes de Macbeth, l'horreur où consent Agamemnon et peut-être l'amour de Phèdre d'une excuse fatidique et leur donner ainsi la grandeur et la noblesse sombre qu'ils n'ont pas par eux-mêmes. Ôter de Macbeth la prédestination maudite, l'intervention de l'enfer, la lutte héroïque contre une justice occulte qui à tout moment devient visible par les mille fissures de la nature révoltée, et le personnage principal n'est plus qu'un assassin odieux et forcené. Ôter l'oracle de Calchas, voilà Agamemnon abominable. Ôter la haine de Vénus, et Phèdre n'est qu'une malade dont la qualité morale, la force de résistance au mal, est inférieure à ce que notre pensée exige pour s'intéresser réellement à un malheur. 14. À vrai dire, le spectateur ou le lecteur d'aujourd'hui ne peut plus se contenter d'aucune de ces interventions surnaturelles. Qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou l'ignore, au fond de sa conscience, il ne lui est plus possible de les prendre au sérieux. Il a une autre conception de l'univers. Il ne voit plus une volonté déterminée, obstinée, bornée et tracassière dans la multitude des forces qui agissent en lui et autour de lui. Si, dans la vie, il rencontre un criminel, il apprendra que cet homme a été poussé à son crime par ses malheurs, par son éducation, par des antécédents ataviques, par des mouvements passionnels que lui-même a éprouvés et réprimés, tout en concevant parfaitement qu'il ait des circonstances où il lui eût été très difficile de les réprimer. Il ne pénétrera pas toujours la cause de ses malheurs ou de ses mouvements passionnels. Il cherchera, peut-être vainement, une raison aux injustices de l'éducation ou de l'hérédité. Mais en tout cas, il ne songera plus à attribuer ce crime à l'interposition de l'enfer, à la colère d'un dieu ou à une série de décrets immuables gravés au livre du destin. Dès lors, pourquoi admettrait-il dans un poème une explication qu'il n'admettra pas dans la vie? Le devoir du poète serait tout au contraire de lui proposer une explication plus haute, plus claire, plus largement et plus profondément humaine que celle que lui-même peut trouver. Sinon, il ne verra dans l'enfer, dans la colère du Dieu, dans les décrets d'airain, qu'une ostentation de symboles qui ne le satisfont plus. Il est temps que les poètes le reconnaissent. Le symbole suffit à représenter provisoirement une vérité admise ou une vérité qu'on ne peut ou qu'on ne veut pas encore regarder. Mais quand vient le moment où l'on veut voir la vérité même, il est bon que le symbole disparaisse. Il faut d'ailleurs, pour qu'un symbole soit digne d'une poésie réellement vivante, qu'il soit au moins aussi grand, aussi beau que la vérité qu'il représente. Il faut aussi qu'il précède une vérité et non pas qu'il la suive. 15. Voilà pourquoi il est bien plus difficile d'introduire aujourd'hui dans une œuvre, et surtout de porter à la scène, de grands crimes et des passions vraiment tragiques, déchaînées et cruelles, car on ne sait plus où leur trouver l'excuse mystérieuse qu'ils exigent. Et cependant, nous sommes tout prêts encore, quand il s'agit de crimes ou de passions de ce genre, à admettre toute intervention de la fatalité, pour peu qu'elle ne soit pas trop manifestement inacceptable. Tant l'excuse mystérieuse est dans notre nature, tant nous sommes persuadés qu'au fond, l'homme n'est jamais aussi coupable qu'il paraît l'être. Aussi bien, ne demandons-nous cette excuse que lorsqu'il est question de crimes absolument contraires à la nature humaine, ou de malheurs réellement anormaux et non provoqués par des fautes, crimes commis ou malheurs éprouvés par des êtres plus ou moins supérieurs et en tout cas conscients. Il nous répugne d'admettre qu'un crime et un malheur extraordinaire puissent n'avoir qu'une cause purement humaine. Nous désirons malgré tout une explication quelconque de l'inexplicable, et nous ne serions nullement satisfaits si le poète venait nous dire « Voilà le mal qu'a fait cet homme, fort, conscient, intelligent. Voilà le malheur d'un héros, la ruine et la douleur de ce juste, l'iniquité tragique et sans remède dont ce sage est victime. Voyez les causes humaines de ces événements. Je n'en ai pas d'autres à vous faire voir, sinon peut-être l'indifférence de l'univers aux actions des hommes. Encore, ne serions-nous pas mécontents s'il parvenait à nous donner le sentiment de cette indifférence, à la montrer, pour ainsi dire, en action. Mais comme le propre de l'indifférence est de n'agir point, de ne jamais intervenir, cela est à peu près impossible. 16. Mais qu'il s'agisse de la jalousie d'Othello, qui n'a rien d'inévitable, des malheurs de Roméo et Juliette, qui ne sont nullement préétablis, nous nous passons parfaitement de l'influence purificatrice de la fatalité et de toute autre explication. Dans un autre drame, le chef-d'œuvre de Ford, Tis Pity She Is a War, qui roule tout entier sur l'amour incestueux de Giovanni pour sa sœur Annabella, on nous mène au bord de l'abîme où nous avons coutume de réclamer l'excuse mystérieuse si l'on ne veut pas que nous détournions la tête. Pourtant, ici encore, nous nous en passons après une seconde de vertige douloureux. C'est que l'amour du frère et de la sœur, vu de haut, est un crime contre notre morale, mais non contre la nature humaine. Et qu'en tout cas, il trouve ici son pardon dans la jeunesse et l'aveuglement passionné de ceux qui le commettent. C'est d'autre part que le meurtre d'Othello trouve son excuse dans l'affolement où les machinations d'Iago ont entraîné la naïveté et la crédulité d'un demi-barbare. Et Iago, à son tour, a une excuse dans sa haine injuste mais non gratuite. C'est enfin que les malheurs des amants de Vérone s'expliquent par l'inexpérience des victimes et la disproportion trop manifeste de leur force à celle qu'ils devraient vaincre. Car on peut remarquer que nous avons pitié de l'homme qui lutte contre des forces humaines supérieures. Mais s'il succombe, nous ne sommes point surpris. Nous ne pensons pas à regarder ailleurs, à interroger le destin. Et à moins qu'il soit victime d'une injustice surnaturelle, nous nous disons simplement « cela devait arriver ». Ce qui a besoin d'explication c'est qu'une catastrophe puisse arriver après que toutes les précautions ont été prises que nous-mêmes aurions pu prendre. 17. Ainsi, nous avons peine à concevoir et à accepter la possibilité naturelle et humaine du crime quand il est commis par un être qui nous paraît intelligent et conscient. Nous avons peine aussi à concevoir et à accepter des malheurs naturellement inexplicables, imprévus et immérités. Il s'ensuivrait qu'on ne pourrait mettre au théâtre, et quand je dis mettre au théâtre, c'est bien entendu une expression abréviative, il faudrait dire plutôt nous faire assister d'une façon quelconque à une aventure dont nous ne connaissons pas personnellement toutes les circonstances ni les acteurs. Il s'ensuivrait donc qu'on ne pourrait mettre au théâtre que des injustices, des fautes, des crimes commis par des personnages qui ne jouiraient pas d'une conscience suffisante et des malheurs que subiraient des âmes faibles, victimes de leurs désirs, innocentes mais imprévoyantes, imprudentes et aveugles. À ce prix, nous n'aurions jamais besoin de l'intervention de ce qui est situé hors de la psychologie habituelle de l'homme. Mais une telle conception du théâtre ne répondrait pas du tout à la réalité de la vie, où nous voyons, au contraire, des êtres très conscients commettre des actions très criminelles et des êtres très bons, très prudents, très vertueux, très justes et très sages, en proie à une foule de misères et de malheurs inexpliqués. Les premiers drames, les drames des inconscients, des opprimés, certes, nous intéressent et nous apitoient. Mais le drame véritable, celui qui va au fond des choses, celui qui s'attaque sérieusement aux vérités importantes, notre drame à tous en un mot, celui qui plane sur toute notre vie, c'est le drame où les forts, les conscients et les intelligents commettent des fautes et des crimes presque inévitables. C'est le drame où le juste et le sage luttent contre des malheurs tout-puissants, contre des forces qui déconcerte la sagesse et la vertu. Car le spectateur, si faible, si peu honnête qu'il soit dans la vie réelle, se compte toujours au nombre des justes et des forts. Et s'il regarde les malheurs des faibles, si même il y prend part, jamais il ne se met entièrement à la place de ceux qui les subissent.